My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants du discours de présentation du président Monson. Nous relevons le défi qu'il nous lance de lire, de comprendre et de suivre ses manuels afin de maintenir l'intégrité des règles, modalités et programmes de l'Église. En faisant cela, nous accomplirons sa déclaration inspirée qui atteste que ces nouveaux manuels seront un trésor et une bénédiction pour chacun d'entre nous. La parution de ces nouveaux manuels et cette émission représentent l'étape finale d'un processus de 3 ans. Les 2 tomes de l'édition de 1998 du manuel d'instruction de l'Église, y compris la mise à jour du tome 1, paru en 2006, ont été revus ligne après ligne et révisés selon les besoins afin de servir de guide aux dirigeants généraux et locaux et au personnel du siège de l'Église au service des membres d'une Église mondiale. Cette révision a été faite en ayant pour objectif le salut des enfants de Dieu et la fortification de leur famille. Bien que les manuels n'aient pas la même autorité que les Écritures, ils représentent l'interprétation la plus actuelle des plus hautes instances de l'Église et leurs directives concernant les procédures. Pour citer le président Monson, ils ont été lus et relus, corrigés et relus. Sous la direction de la première présidence, les chapitres ont été écrits, lus et approuvés individuellement par l'épiscopat président, par les officiers généraux des auxiliaires et par les autorités générales affectées aux divers départements de l'Église. Le texte proposé a ensuite été révisé et approuvé par le Collège des 12 apôtres, assisté par la présidence des 70. Pour finir, le texte entier a été lu, amendé et approuvé par la première présidence. Tout au long de ce travail, nous avons été guidés par un doux esprit d'inspiration. Nous savons que ces manuels et les directives qu'ils contiennent, comme l'a dit le président Monson, et comme il est rappelé dans l'introduction de chaque tome, peut, je cite, « faciliter la révélation s'ils sont utilisés pour susciter la compréhension des principes, des règles et des modalités à appliquer tout en cherchant à être guidé par l'Esprit ». Fin de citation. Cette émission sera axée sur les principaux problèmes et principes abordés dans les nouveaux manuels. En février, une deuxième présentation se portera en détail sur des questions supplémentaires, comme les responsabilités propres aux présidents de pieux et aux évêques, le travail des collèges et des auxiliaires, et les difficultés particulières aux unités qui ne comptent pas suffisamment de membres et de dirigeants pour mettre en œuvre l'intégralité des programmes de l'Église. Pour commencer, je souligne, frères et sœurs de cette Assemblée mondiale des dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires, que vous devez presque tous être déjà en possession d'exemplaires des nouveaux manuels dans votre langue que vous pourrez consulter au cours de cette émission. Ces nouveaux manuels sont principalement axés sur les paroisses et les branches. Les pieux et les districts y sont secondaires et il n'y a aucune information sur l'organisation ou les fonctions de l'interrégion ou de l'Église au niveau mondial. Ces manuels sont des ouvrages de référence conçus pour aider le lecteur à trouver l'information qu'il recherche. Ils sont munis d'onglets pour repérer les chapitres et sont indexés par numéro de chapitre et de section qui sont les mêmes, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont édités. Ils comportent 12% de mots en moins que les manuels actuels. Il y a 2 tomes. Le manuel 1 couvre les sujets qui relèvent de la responsabilité des présidents de pieux, des présidents de mission, des présidents de district, des évêques et des présidents de branche. Seuls ces responsables et leurs conseillers auront un exemplaire du manuel numéro 1. La plupart du contenu du manuel 1 est identique à l'actuelle mise à jour à 2006 du manuel d'instruction de l'Église. Les lettres les plus récentes de la première présidence y sont incluses. Les chapitres « Devoirs du président de pieux » et « Devoirs de l'évêque » ont été raccourcis et révisés afin de présenter plus clairement les responsabilités principales. Certains textes ont été simplifiés ou réarrangés. Par exemple, ce qui touche à la suppression d'un nom des registres a été intégré dans le chapitre sur l'action disciplinaire de l'Église. Le manuel 2, intitulé « Administration de l'Église », contient tous les chapitres nécessaires pour administrer l'Église au niveau des épiscopats, des présidences de branches, des collèges et des organisations auxiliaires de paroisses et de branches. Comme vous le savez, un exemplaire de ce manuel est distribué à tous les membres du conseil de paroisse. Ainsi, les dirigeants des collèges de la prêtrise de Melchizedek, la présidente de la société de secours, celle des jeunes filles et de la primaire, le président de l'école du dimanche, leurs conseillers et conseillères disposeront de tous les chapitres qui concernent l'administration de l'Église dans les paroisses et les branches. Ainsi, chaque membre du conseil de paroisse, les femmes comme les hommes, sauront exactement quelles sont les responsabilités des uns et des autres dans leur organisation. Cela permettra aussi à tous ces dirigeants d'avoir accès aux extraits des règles et directives de l'Église énoncées au chapitre 21 du tome 2. Veuillez garder à l'esprit que ces manuels, particulièrement ceux qui concernent ces règles, ne peuvent pas être dupliqués ou distribués à des personnes autres que celles autorisées. La première présidence a souhaité que le contenu du tome 2 puisse faciliter l'équilibre recherché entre l'uniformité sur la doctrine et les principes et la souplesse afin de permettre une adaptation limitée sur certains sujets là où c'est nécessaire. Selon cette directive, le tome 2 est fondé sur des principes. Il vise à réduire la complexité des programmes de l'Église. Il permet qu'il y ait une adaptation locale si nécessaire, comme dans le cas d'une nouvelle unité de l'Église ou d'une unité répartie sur un grand territoire, mais il ne remet pas en question l'uniformité des règles, modalités et programmes dont le président Monson nous a indiqué la nécessité pour l'Église entière. Comme il l'a dit à juste titre, je cite, « Ces manuels sont une sécurité ». Fin de citation. Frère Cook nous en dira plus sur les principes qui doivent guider les dirigeants dans ces domaines importants. Un autre thème majeur des manuels 1 et 2 est la réduction de la charge de travail de l'évêque. Cela est en partie possible du fait qu'une certaine souplesse est permise dans les réunions. Autre point d'égale importance, le manuel 2 vise à réduire la charge de l'évêque en augmentant le rôle du conseil de paroisse et de ses membres. Ceux-ci ne sont pas là pour représenter seulement leur collège ou organisation auxiliaire, mais avec leurs conseillers et auxiliaires, ils reçoivent une délégation pour assister l'évêque dans toutes les questions importantes pour toute la paroisse. Les dirigeants des collèges et des auxiliaires assisteront aussi l'évêque en l'aidant dans le rôle de sauvetage qui est le sien pour amener les non-pratiquants et maintenir les membres dans l'Église. Une plus grande importance est donnée au rôle du président du collège, des anciens et du chef de groupe des grands prêtres dans les nouveaux manuels. Ces dirigeants et leurs conseillers ont des responsabilités plus grandes d'aider individuellement, sur le plan spirituel et temporel, les membres du collège ou du groupe des grands prêtres. Le manuel 2 leur dit d'encourager les membres du collège ou du groupe à remplir leurs devoirs de prêtrise, en particulier ceux de mari et père. Il leur dit aussi de travailler avec leurs conseillers et les instructeurs au foyer et d'autres personnes pour toucher et servir les personnes faisant partie de leur organisation et d'autres qui ont besoin d'aide. Pour accomplir ces responsabilités ecclésiastiques essentielles, ces dirigeants de la prêtrise devront déléguer largement. Ils pourront aussi se trouver dans la nécessité de réduire certaines demandes de services temporelles, par exemple celui d'aider des membres à déménager. Le manuel 2 demande aux évêques d'affecter chaque ancien potentiel soit au collège des anciens, soit au groupe des grands prêtres en fonction des besoins individuels. Une fois les anciens potentiels ainsi répartis, les dirigeants deviennent responsables de leur maintien dans l'Église, de leur retour à l'Église et de leur enseignement au foyer et d'autres besoins. Un président de collège des anciens est appelé et relevé par le président de pieu après consultation avec l'évêque. Il est formé par un membre du grand conseil sous la direction du président de pieu. Dans ses responsabilités dans la paroisse, le président du collège des anciens agit sous la direction du grand prêtre président de la paroisse, l'évêque. Le chef de groupe des grands prêtres est appelé, relevé et dirigé de la même manière. Le tome 2 commence par trois chapitres courts qui fournissent le cadre doctrinal de l'administration de l'Église. Premièrement, la famille et l'Église dans le plan de Dieu. Deuxièmement, principe de la prêtrise. Troisièmement, dirigeant de l'Église de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui assistent à cette émission doivent lire attentivement ces trois nouveaux chapitres. Ils s'appuient sur la doctrine des Écritures. Ils sont extrêmement importants. Par exemple, le chapitre 2 décrit l'objectif général de l'Église, sujet important déjà décrit de différentes manières à différentes époques. C'est en 1981 que la première présidence a mentionné pour la première fois les trois missions de l'Église: proclamer, perfectionner et sauver. À cette époque, la première présidence a déclaré que ces trois missions font partie, je cite, d'une seule œuvre, celle qui consiste à aider notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ dans leur grande et glorieuse mission qui est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Fin de citation. Cependant, depuis 1981, nous avons vu des personnes accorder une attention excessive aux définitions et aux frontières entre ces trois domaines de l'œuvre du Seigneur, les poussant parfois à négliger le fondement doctrinal sur lequel ils reposent et oubliant d'autres éléments essentiels, comme celui de veiller sur les pauvres. Ce nouveau manuel rétablit l'importance qu'avait à l'origine un fondement de la doctrine spirituelle pour décrire la mission globale de l'Église. Dans le tome 2, la section 2.2 réitère la déclaration de 1981. Je cite, « L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a été organisée par Dieu pour qu'elle l'aide à accomplir son œuvre qui est de réaliser le salut et l'exaltation de ses enfants. » Fin de citation. Concernant ce fondement doctrinal de base, la section 2.2 précise que dans ses efforts pour réaliser son objectif d'aider les personnes et les familles à se qualifier pour l'exaltation, l'Église se concentre sur la responsabilité que Dieu lui a donnée. Fin de citation. Ces responsabilités sont alors décrites et comprennent les points suivants. Aider les membres à vivre l'Évangile de Jésus-Christ, rassembler Israël par l'œuvre missionnaire, prendre soin des pauvres et des personnes dans le besoin, et rendre possible le salut des morts en construisant des temples et en accomplissant les ordonnances par procuration. Fin de citation. Le principe général énoncé à la section 2.2 est que les, je cite, les programmes et activités de l'Église ont pour but de soutenir et de fortifier les personnes et les familles. Fin de citation. Après le rappel de ce principe, nous suggérons que lorsqu'ils donnent des appels, les évêques et les présidents de branche gardent à l'esprit que leur impulsion naturelle de remplir tous les postes et de mettre en œuvre tous les programmes est moins importante que le bien-être des familles concernées. Nous pensons qu'il est souhaitable que les membres n'aient pas plus d'un appel majeur, particulièrement lorsque les deux parents sont dans cette situation et qu'ils ont des enfants en bas âge. Par contraste, avec le caractère uniforme des principes permanents et des doctrines énoncées dans les trois premiers chapitres, la plus grande partie du tome 2 consiste en des programmes et des mesures qui peuvent être amenés à évoluer à l'avenir par décision de l'autorité appropriée. Pour la plupart de ce qui est contenu dans le manuel, y compris les mesures et principes énoncés, la seule autorité ayant le pouvoir d'effectuer des changements est la première présidence. Nous devons nous souvenir que les directives ne sont approuvées et annoncées que par la première présidence. Elles ne le sont pas par les rumeurs qu'un dirigeant ou un membre colporterait à d'autres personnes. Par ailleurs, si vous avez des questions, vous devez en discuter avec le dirigeant de la prêtrise qui vous préside. Seuls les dirigeants de la prêtrise détenant l'office le plus élevé sont habilités à prendre contact avec le bureau de la première présidence. Il existe une exception à cette règle, comme Frère Cook va nous l'expliquer dans un moment. Certains programmes peuvent être modifiés par les autorités locales selon les besoins dictés par des conditions régionales ou là où c'est nécessaire afin de servir les membres. Les chapitres 4, 5 et 6 sont axés sur le conseil de paroisse, l'œuvre du salut dans la paroisse et les principes d'entraide. Tous les membres du conseil de paroisse doivent étudier et appliquer ce qui est contenu dans ces chapitres pour leur participation au conseil de paroisse et dans l'accomplissement de leurs tâches au sein des organisations de la prêtrise et des auxiliaires. Ensuite, le tome 2 consacre 6 chapitres à la prêtrise de Melchizedek, à la prêtrise d'Aaron et aux 4 auxiliaires. Bien que les titres soient les mêmes que ceux du manuel actuel, ces chapitres contiennent des simplifications importantes de contenu et de présentation. Nous aurons le plaisir de suivre une discussion sur les principes et le contenu du manuel avec Antin L. Cook. La première présidence lui a confié, ainsi qu'à moi-même et à Bruce des porteurs des 70, la responsabilité de coordonner l'élaboration du nouveau manuel. Nous avons reçu une aide particulièrement précieuse de la part du département de la prêtrise de l'Église, d'autres autorités générales, et du département de la corrélation et de ses rédacteurs talentueux. Tout cela, bien sûr, s'est fait sous la direction de la première présidence et a été soumis à son approbation. Je me suis senti privilégié de pouvoir contribuer à cette tâche inspirée, et je témoigne qu'elle fera avancer l'œuvre de celui dont nous sommes les serviteurs, notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de qui je rends témoignage. Amen.